Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie avec petites et grandes histoires de la Basse-Marche.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la Basse-Marche. Nous allons consacrer cette séquence à la poétesse romancière de Mézières-sur-Issoire, Paul Lavergne. Pour les textes, nous avons utilisé les ouvrages de Paul Lavergne, articles, contes, romans, recueils de poésie, ouvrages pour la jeunesse. Les cahiers de l'Association des Amis de Paul Lavergne, catalogue des expositions Paul Lavergne de Bellac et de Mézières-sur-Issoire, et une étude de Geneviève Laleuf, Paul Lavergne, redécouvrir le monde avec le regard émerveillé de l'enfance, dans les cahiers Robert Margerie.
La Basse-Marche a plein d'histoires à raconter. Écoutez-les avec petites et grandes histoires de la Basse-Marche.
En avant-propos, je voudrais dire combien notre dette est grande à l'égard de Paul Lavergne. Alors certes, nous avons consacré une émission entière en octobre 2015 à un de ses personnages de conte, Jean Le Sceau. Nous recommencerons en septembre 2016 avec d'autres personnages des contes de Paul Lavergne comme Fanchette, Lamion, le curé de Gajoubert ou Robineau. Mais sachez que pour nos chroniques des petites et grandes histoires de la Basse-Marche, nous avons très souvent fait appel à ces textes, qu'il s'agisse de poèmes, en particulier ceux du recueil La joie de l'été, de passages de ses romans, en particulier de Printemps, du Maître, du Collier de terre et surtout de L'enfant sous les charmes. Mais encore à ses contes de Noël ou bien à ses études ethnographiques que nous retrouvons dans l'œuvre d'Albert Gourceau, La société traditionnelle en Limousin et Basse-Marche. Paul Lavergne avait une connaissance fine, précise, objective et bienveillante de notre Basse-Marche et de ses habitants. Et son écriture, nos auditeurs ont pu l'apprécier, est un petit bijou particulièrement bien ciselé.
Petites et grandes histoires de la Basse-Marche.
Pour essayer d'y voir clair, j'ai allumé ma chandelle. Mais dans ce monde à l'envers, je me suis brûlé les ailes. Ainsi s'exprimait Paul Lavergne dans la préface de Vacillante chandelle, son dernier recueil de poésie, en 1982. Et son fils, Jacques Dumur, lui, nous explique. Quand nous habitions le logement de l'école de Mézières, ma mère écrivait dans sa chambre, dans un cahier posé sur ses genoux. Elle écrivait au crayon et recopiait ensuite ses textes à la plume. Enfant, j'étais son premier public. Elle prenait quelques chapitres et me les lisait. Quand nous avons habité la maison, route de Blon, elle écrivait sur la table de la cuisine en utilisant un stylo Bic. À l'été, elle préférait écrire sur une petite table dans le couloir, car c'était l'endroit le plus frais de la maison. J'ai pris le temps sur mon épaule, il a pesé lourd à mes pas. J'ai rempli ma charge, mon rôle, en solitaire, pas à pas. J'ai porté mon feu d'artifice mêlé de terre et de néant, mes illusions, mes précipices, parmi les gens indifférents. J'avais cru transmettre un message, ce n'était rien moins que du vent. À quoi bon parler d'héritage? Chacun reste après comme avant. Au ciel, parfois brille une étoile que l'on croit amie bien à tort. Dieu ni diable n'est secourable pour nous dépêtrer de la mort. J'ai pris le temps est un poème de Paul Lavergne, extrait de son recueil Au bal de la vie, un poème qui résume bien Paul Lavergne et son pessimisme. Et pourtant, elle fut une auteure particulièrement active, particulièrement productive, qui a publié 9 recueils de poèmes, de La joie de l'été en 1925 à Vacillante chandelle en 1982. 3 grands romans, Printemps, en 1939, qui fut présenté pour le prix Goncourt, nous y reviendrons, Le Maître en 1942, Collier de terre en 1967. 6 recueils de légendes, de contes et de récits. Nous avons par exemple consacré une émission entière en octobre 2015 à son ouvrage Les aventures de Jean Le Sault, mais il y a aussi La splendide Dupé en 1939 ou Récits de l'ancien temps en 1969. Il y a encore 11 ouvrages illustrés pour les enfants, le plus célèbre étant sans doute L'enfant sous les charmes, publié en 1947 et illustré par le célèbre peintre Élie Lascaux. Mais encore des dizaines, peut-être même des centaines d'articles publiés dans les revues comme La Vie Limousine ou La Jeune Revue Française. Ou dans Le Petit Écho de la Mode. Nous en reparlerons, mais aussi des pièces de théâtre, des études ethnographiques, et ajoutons que chaque année, pratiquement, l'association des amis de Paul Lavergne découvre des textes inédits. Poétesse, romancière, conteuse, ethnologue, auteur d'œuvres pour la jeunesse, institutrice, Paul Lavergne, qui aurait pu être pris Goncourt en 1939 pour son roman Printemps, fut tout cela à la fois.
Les petites histoires font les grandes histoires. Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région.
Paul Lavergne est né le 16 mars 1897 à Sainte-Marie. Alors Sainte-Marie, c'est un faubourg, enfin le mot est d'ailleurs exagéré, du hameau de Champeau, qui est un écart de la commune de Gajoubert, près de Mézières-sur-Issoire. Ses études vont la conduire à l'école normale d'institutrice de Limoges, dont elle sort diplômée en 1917. Elle débute sa carrière à Sieux, où elle va rester 2 ans, puis au Courtiou, c'est une école de hameau de la commune de Darnac, près du Dorat. Et en 1920, elle est nommée à Mézières-sur-Issoire, où elle restera jusqu'à sa retraite en 1957. Elle décédera à Bellac le 3 juillet 1984.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Pourtant, les débuts littéraires de notre compatriote furent lents. Madame Laloff, dans son étude, nous dit « Le jeune écrivain n'a pas frappé les esprits comme il arrive par une exceptionnelle précocité. Paul Lavergne avait 28 ans quand parut son premier livre en 1925 et 42 ans pour le second en 1939. » En 1925, c'était La joie de l'été, un recueil de poésie, et en 1939, son roman Printemps. Entre les deux, un trou de 14 années. Parce que dans cette période, et même avant, dès le retour au pays, à Sieux, en octobre 1917, elle a emmagasiné des impressions, des paysages, des scènes campagnardes qu'elle restituera dans ses œuvres futures. Et elle a aussi beaucoup écrit, des textes courts, des poèmes en prose ou des contes qu'elle a envoyés à différentes revues, procédé habituel aux débutants qui veulent se faire connaître dans le monde de l'édition. En 1925, Madame Dumur, encore jeune mariée, éprise de son époux, malgré leurs divergences, peut se sentir comblée. Elle vient d'avoir un enfant, et voici que son rêve de normalienne douée pour les lettres est en passe de se réaliser. Elle tient entre les mains son premier livre imprimé, une mince plaquette intitulée « La joie de l'été » qui réunit de précieux poèmes en prose. Pour ma part, je considère que c'est un de ses meilleurs recueils et nous avons utilisé plusieurs de ses poèmes dans nos chroniques des petites et grandes histoires de la basse marche. À cette époque donc, tout lui réussit. La même année, elle collabore à la revue littéraire La Vie Limousine. Et entre 1933 et 1939, elle va collaborer au Petit Écho de la mode. Son fils, M. Jacques Dumur, nous a plusieurs fois raconté comment s'opérait cette collaboration avec cette revue. On envoyait à Paul Lavergne une image, une photo, un dessin, et sur cette image, elle composait un texte court, selon son inspiration. On peut penser qu'elle procéda de même pour écrire de très nombreux poèmes à partir des tableaux des peintres contemporains. En particulier dans son recueil « Au bal de la vie » ou « Le zodiaque et la ville », on trouvera une véritable galerie d'art avec Chagall, Picasso, Braque, Utriot, Le Douanier Rousseau, Élie Lascaux, Modigliani, Clee, Duchamp, Soutine, Suzanne Léger, sa voisine de Mézières-sur-Issoire, Fernand Léger, Lapicque, Bonnard, Beauchamp et bien d'autres. C'est vous dire si la liste est longue et si c'est connaissances artistiques sont grandes. En voici un exemple avec un poème sur une œuvre de Kirschenbaum, Jézéchiel Kirschenbaum, ce peintre juif polonais dont nous avons déjà parlé, qui fut déporté dans le camp de regroupement de Saint-Sauveur, près de Bellac. Somnambule, sous la lune étonnée, il court dans les étoiles comme une nébuleuse au-dessus des cités. Endormi et lucide, entouré d'un halo, il enjambe le vide, il déclenche l'écho pour atteindre, en rêvant, hors de lui, hors du temps, le lieu des impossibles certitudes.
Les petites histoires font les grandes histoires. Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région.
C'est ensuite que vint la période des romans. Paul Lavergne est maintenant bien installé, institutrice à Mézières-sur-Issoire, pédagogue reconnu et apprécié, poète et écrivain qui commence à être reconnu. En 1932, nous dit Madame Laleuf, ce coup imprévisible, cette cassure, cette révolte de tout l'être, la mort de son deuxième enfant, un petit garçon de 4 ans et demi. La mère ne surmontera jamais ce malheur. Paul Lavergne ne sera jamais plus cette jeune femme qui, malgré les premières désillusions, voulait croire en la vie et attendait tout de l'avenir, le bonheur, la gloire. Et pourtant, les œuvres majeures de la romancière vont apparaître à partir de 1939. La splendide Lupé, que l'on peut classer parmi les récits ou les romans. La même année, en 1939, donc Printemps. En 1942, Le Maître. Et en 1947, un roman que l'on peut classer dans les ouvrages pour enfants, L'Enfant sous les charmes. Alors, la splendide Lupé d'abord. La ville de Lupé est une puissante cité gallo-romaine, enjeu de la lutte entre les Gaulois et les Romains. Elle verra se nouer et se dénouer le destin des personnages qu'elle abrite. Brenner, le jeune pêcheur celte. Aldea, la romaine à la beauté si captivante, Paulus, le centurion audacieux et téméraire, Donatalva, la jeune Gauloise si douce et inlassablement dévouée. Ce roman a particulièrement intéressé nos compatriotes limousins, car l'action se situe dans les monts de Blon, où donc s'élevait la ville gauloise de Lupé, au temps de Vercingétorix. Mais c'est vrai, et c'est fort dommage, que ce roman a eu du mal à intéresser en dehors du Limousin.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Quelques mois après la publication de La Splendide Lupé, un second roman fut édité à Paris chez Gallimard. Printemps paraît en juillet 1939, juste à temps pour faire partie des livres proposés au Goncourt. Et dit-on alors, présentée par Gallimard, elle a ses chances. Mais, entre-temps, la France entre en guerre et le Goncourt est décerné à un auteur belge plutôt inconnu. Le fait d'avoir été présenté au Goncourt donne une petite célébrité à son auteur. C'est ainsi qu'un critique écrit « Madame Paul Lavergne peut être désormais considérée comme un écrivain sur qui nous devons et pouvons compter ». On voit qu'il s'agit là d'un encouragement, mais pas vraiment d'une consécration. Alors qu'est-ce que Printemps, qui est autant un essai poétique qu'un roman? Alors, résumons très vite. Une petite fille de 12 ans, Rosalie, manque la rentrée d'octobre à l'école parce qu'elle attend le passage des grues. Les grues sont passées et elle décide d'attendre la Toussaint. C'est donc par un novembre pluvieux que nous prenons avec Rosalie le chemin de l'école, le chemin de Gajoubert. Nous suivons Rosalie jusqu'au certificat d'études, saison après saison, toujours le même trajet et toujours différent, selon la saison, la lumière, les rencontres en cours de route et l'humeur de Rosalie elle-même. Elle découvre, et nous avec elle, une nature animée, en mouvement, traversée d'un courant de vie dans lequel elle veut se fondre. Partageront aussi tous les émois, tous les troubles de l'adolescence. Et finalement, Rosalie partira vers la ville à Narbonne avec sa tante.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Voici un court extrait du roman Printemps sur le chemin de l'école. Dans toutes les haies s'épanouissaient des fleurs. Sur le chemin de l'école, Rosalie découvrait des touffes de pulmonaires qu'elle s'empressait de cueillir. La tige portait des fleurs d'un bleu profond, mélangées à d'autres d'une pourpre incertaine. Elle arrachait la corolle du calice velu en forme de mitaine, en suçait la base. Cela avait un fin goût de miel et fondait sur la langue. C'était le premier élixir du printemps. « C'est bon, c'est tout sucre !» Des abeilles, encore engourdies, y butinaient sans bourdonner. Puis, les frêles pervenches regardaient l'enfant de leurs grands yeux bleus et tout le long des talus flottait le parfum des violettes. Maintenant que c'était le printemps, dans le sous-bois brillaient de grêles anémones aussitôt fanées que cueillies. La chaleur des doigts suffisait, au bout d'une minute, à les faire pâmer. Elles paraissaient si délicates alors, avec leur corolle d'un blanc avivé de mauve dans la découpure des feuilles. Elles respiraient tant de tristesse et de fragilité que l'enfant, pour ne point éprouver le remords de les avoir cueillies, les jetait aussitôt. Par endroits, l'odeur des saules arrivaient, chaudes et sucrées, et les chatons brillaient de toutes leurs étamines, semant le pollen. Le roman qui va suivre, Le Maître, est comme l'a écrit l'écrivain et critique Robert Margery, un drame immobile. Discret et délicat, se déroulant dans un espace clos, c'est un roman dense et tragique. Une jeune femme, Gilberte, et sa vieille servante, Nanon, conversent. Gilberte, maltraitée par son mari puis abandonnée, voudrait comprendre pourquoi un mariage d'amour a si vite mal tourné. Mais en fait, Gilberte, la jeune femme délaissée, n'est pas une victime écrasée et détruite, perdue dans son humiliation. En effet, ce mari aimé, devenu un maître, ne l'a jamais entièrement dominée. Après les scènes les plus violentes dont elle sortait brisée, elle retrouvait toujours le souci de se reprendre, de se refaire un équilibre, de ne pas se laisser détruire. Et c'est la nature, les arbres protecteurs, la ligne rassurante des collines bleues, les landes qui lui permettent de trouver le bonheur en elle-même. Dans le même ensemble, nous allons mettre également un roman publié en 1967 qui obtiendra d'ailleurs le prix Sully Olivier de Serre, et c'est Le Collier de Terre. On y découvre la vie quotidienne, en famille et à la Tuilerie, une vie besogneuse, une lutte de tous les instants pour survivre. C'est donc une peinture sociale, mais c'est aussi un roman de mœurs, un roman du pessimisme. Je vous donne cette citation de Madame Laloeuf. « Le sort s'acharne sur un personnage comique et tragique, l'oncle Maximin. Son destin est d'aimer sans retour sa jeune femme volage qui le bafoue et l'humilie. Il a créé pour elle un collier de terre fait de perles rouges claires en argile, moulées par lui et surveillées toute une nuit pendant la cuisson. Quand il le lui offre, Sylvie se met en colère. « Un collier de terre !» et écrase les perles sous ses pieds. Voilà, le titre est explicité et l'esprit du roman bien précisé.
Les petites histoires font les grandes histoires. Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région.
Les livres pour enfants. Quand elle prend sa retraite en 1957, elle a fait éditer seulement 6 ouvrages. Mais si elle n'a pas été une auteure précoce, elle va poursuivre son œuvre jusqu'à sa mort. Et peu à peu, l'œuvre romanesque pour adultes qui ne lui a pas donné la gloire et la satisfaction qu'elle espérait s'effaçant, elle va se tourner vers une œuvre plus diversifiée, comprenant en particulier un très grand nombre de livres pour enfants. L'éditeur de Mortemart, René Rougerie, affirmera que Paul Lavergne avait produit là une œuvre parfaite, pure et vivante, émouvante et drôle, au surplus, illustrée avec goût par des artistes qui avaient travaillé en totale entente avec elle. Alors citons quelques titres de ses ouvrages parus pour la plupart dans la collection Fantasia chez Magnard, le roman de la fourmi, le roman de l'abeille, La fleur qui vole, Le voyageur du printemps, qui obtint en 1963 le prix du meilleur roman Loisir jeunesse, Hirondelle, hérisson, campanule, Sonsonnet, sonsonnette, en collaboration avec Marc Michon, Nez pointu, hérisson. Et pour ma part, je considère que L'enfant sous les charmes est le meilleur et le plus beau de ses ouvrages pour enfants, non seulement parce qu'il est illustré par Élie Lascaux, mais encore parce que c'est une histoire singulière d'une enfant qui va venir passer une année à la campagne chez ses grands-parents. Nous allons avec elle découvrir la vie campagnarde, la vie à la Tuilerie. Et dans les petites et grandes histoires de la Basse Marche, nous avons souvent utilisé des passages de ce roman, en particulier dans les chroniques consacrées au colporteur, au feu de Saint-Jean, à la bujade, à la lessive. Ajoutons aussi qu'une partie de la poésie de Paul Lavergne est consacrée à la jeunesse. En voici un exemple tiré de son bestiaire publié dans son recueil « Le zodiaque et la ville ». La coccinelle. En 2 chevaux publicitaires, elle fait le tour de la terre pour présenter on ne sait quoi chez les paysans et les rois. Ses antennes d'hélicoptères ne font qu'épaissir le mystère de cet agent de bon aloi en élégante robe à pois. On lui dit « Marie, Marie, vole !» Jolie petite pain-parole. Et aussitôt elle s'envole en filant par-dessus les toits. À l'école, où l'enfant récite sa leçon sur le bout du doigt, c'est elle qui le félicite en grimpant au bout de son doigt.
Petites et grandes histoires de la Basse Marche.
Paul Lavergne, particulièrement sur son temps de retraite, va aussi se passionner pour la récolte et la transcription des contes et légendes de notre région. Nous avons déjà indiqué sa participation à la monumentale étude d'Albert Gourceau, La vie traditionnelle en Limousin et Basse Marche, mais elle a aussi beaucoup publié. Dans un ouvrage de René Rougerie, Légendes racontées par Paul Lavergne, Les contes de l'histoire en 1964, Histoire et légendes de Gajoubert en 1967, Récits de l'ancien temps en 1969 et Les aventures de Jean Le Sault en 1971, ainsi que de nombreux articles dans La Vie Limousine, Les Mousies ou le bulletin de la Société ethnographique du Limousin et de la Marche. Nous aurons l'occasion de revenir sur ces ouvrages en 2017. Nous allons conclure avec ce texte de Geneviève Laloeuf dans son étude « Paul Lavergne, redécouvrir le monde avec le regard émerveillé de l'enfance ». En définitive, Paul Lavergne est poète, avant tout. Elle qui est aussi une merveilleuse conteuse. Elle est poète, pas tellement par ses vers qui sont inégaux, par sa prose, ses magnifiques descriptions, et par le monde qu'elle crée, un monde réel et irréel à la fois. Réel, elle a dit qu'elle n'inventait rien, que dans ses romans, les lieux, les personnages étaient vrais. Mais de la vie la plus ordinaire et la plus plate, jaillit l'enchantement et le rêve. Ses héroïnes, Rosalie, Gamy et même un peu Gilberte, ont le pouvoir d'entrer en harmonie avec la nature et d'y trouver un bonheur exaltant. Lire Printemps, ou les livres pour enfants, ou ce conte poétique « L'enfant sous les charmes », c'est redécouvrir le monde avec le regard émerveillé de l'enfance.
petites et grandes histoires de la basse marche.
Merci de nous avoir suivis pour cette nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la basse marche que nous avons consacrée à la poétesse romancière de la basse marche, Paul Lavergne. Pour les textes, nous l'avons fait en compagnie de Geneviève Lalaf et de l'Association des Amis de Paul Lavergne. Pour les accompagnements musicaux, nous avons fait appel à Frédéric Chopin, Vladimir Kosma, au groupe Maluzerne, Celtic Music et Chandelle, que nous écoutons en ce moment. Chandelle est un groupe musical de Mézières-sur-Issoire qui a mis en musique 11 poèmes de Paul Lavergne. Et nous écoutons en ce moment « Bateau à voile », extrait du recueil « Au bal de la vie ». Je vous donne rendez-vous le week-end prochain pour une rediffusion estivale des petites et grandes histoires de la basse marche. À très bientôt donc. Et très bonne semaine à vous tous.
La basse marche a plein d'histoires à raconter. Écoutez-les les samedis à 11h et dimanche à 13h avec petites et grandes histoires de la basse marche.